peut-être harassante au travail, de venir un vendredi soir pour parler de ces questions, c'est aussi courageux. Je peux imaginer la fatigue, je la connais aussi. Faut travailler hein, de nombreuses heures, et puis voilà, vous êtes là pour parler d'un sujet. Puis en même temps, c'est, je crois, un sujet qui est pertinent. Il y a un proverbe français qui dit qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines, les impôts et la mort. C'est... Pour une fois, je crois que ce proverbe français mérite de passer la barre de la véracité, de l'authenticité. Puis en même temps, quand on parle de ces questions, ben, ça nous renvoie à une thématique qui nous préoccupe. Alors, je vois, il y a beaucoup de jeunes, c'est chouette. Et c'est une thématique qui probablement n'est pas vraiment présente. C'est confirmé par les rires que j'entends. C'est pas vraiment une thématique présente encore. Pour d'autres, c'est une thématique peut-être un petit peu plus parlante. Et puis pour certains, c'est peut-être une thématique super douloureuse. Et je suis conscient que quand on parle de la mort, vous venez avec des expériences des uns et des autres dans vos familles respectives ou peut-être dans des situations qui vous ont marqué. Et je suis très conscient que c'est un sujet sensible. Alors, d'avance, je voudrais vous présenter un peu mes excuses parce qu'on va en parler avec... Bon, c'est pas non plus une soirée qu'on veut trop solennelle. On va parler un peu des options. Mais en même temps, je suis conscient, ça va saisir nos tripes parfois. Et puis, quelque part, il faut... Parce que ça nous permet de réfléchir sainement à la question qui nous préoccupe. Donc voilà, parfois j'ai un très mauvais sens de l'humour. J'espère que vous me pardonnerez. C'est ce que mes enfants m'ont toujours dit. Papa, tu as vraiment un mauvais sens de l'humour. Et moi, je crois que les blagues des pères sont vraiment dévalorisées. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais donc ça vous explique que parfois, ici et là, je dirais des choses. Vous direz, non, mais là, tes enfants, ils ont vraiment, vraiment raison. Alors... On va parler donc de ce sujet en sachant que, bah bien sûr, comment savoir qu'est-ce qui se passe après la mort, hein ? C'est facile d'en parler comme ça, mais comment savoir ? Surtout qu'on a banni la mort de notre société. Dans d'autres sociétés, on meurt entouré des siens chez soi. Dans notre société, on meurt dans des chambres d'hôpital stériles, en blanc, avec des personnels professionnels. Et on a professionnalisé ce passage. Et ça reste donc quelque chose que l'on éloigne de nos préoccupations, n'est-ce pas ? Et en même temps, on a raison de se préoccuper de cette question parce qu'il y a quelque chose d'assez inéluctable qui a lieu et je vous présente Opalka. Je ne crois pas que vous ayez une photo de lui. Cet homme a eu la brillante idée de se prendre en photo tous les jours de sa vie avec la même chemise. Alors, je ne sais pas s'il la lavait entre les prises, mais toujours est-il que c'est assez saisissant, n'est-ce pas ? Comme, d'ailleurs, si vous avez une photo d'Opalka chez vous, vous n'êtes peut-être pas millionnaire, mais vous avez plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, ça vaut une fortune. Alors c'est numéroté maintenant hein, parce que c'est sur je ne sais plus combien de temps, 40 ans qu'il a réalisé cela. C'est particulier comme idée, fallait l'avoir cette idée, hein. Elle est prise. Maintenant si vous faites, ça ne vous fera pas de vous des millionnaires. Mais qu'est-ce que vous remarquez ? La question est quand même un peu facile. Hein. Vous pensiez que j'allais faire tout le travail ce soir, détrompez-vous. Mais on remarque quand même qu'il va de plus en plus près du sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Et depuis que je suis devenu grand-père, ben, je réalise que c'est un sujet qui m'intéresse aussi plus particulièrement. Alors il y a une dame qui s'appelle Catherine Guénec qui signe un livre exceptionnel intitulé « Les mots de la fin ». Et elle recense 200 adieux de gens plus ou moins connus et qui ont donné leurs derniers mots. C'est un livre saisissant, je vous encourage, enfin ça dépend si vous aimez, hein. On aime, on n'aime pas, ça c'est, je respecte, c'est une littérature un peu particulière, mais j'ai repiqué quelques diamants un peu, hein. Guillaume Apollinaire, « Sauvez-moi docteur, je veux vivre, j'ai tant à faire ». C'est limité, ce qu'un docteur peut faire. Hein. Honoré de Balzac qui appelle Bianchon, qui est un personnage qu'il a lui-même créé. Peu de chance d'être entendu. Bourville aurait dit « c'est pas juste ». Et Agatha Christie a dit « je vais rejoindre mon créateur ». Tiens, un petit peu plus optimiste, hein, un petit peu plus favorable. D'autres citations, Marcel Aimé a écrit « la vie, ça finit toujours mal ». Il a raison, c'est une observation. Giacometti, l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, a écrit au sujet des gens qu'il peignait ou qu'il sculptait, tous les vivants étaient morts. Parce qu'il n'arrivait pas à se détacher de ce regard, de ce développement inéluctable. Salvador Dali, vous n'avez peut-être pas non plus de peinture hein, de lui. Hein. Si c'est le cas, ne donnez pas votre adresse, ne mettez pas ça sur Facebook, d'accord ? Mais Salvador Dali a écrit « Le seul problème qui non seulement me préoccupe, mais qui m'effraie, c'est l'idée de la mort ». C'est lucide comme remarque. Et puis César Borgia, un homme politique italien du XVe siècle, a écrit « Dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires et voilà que maintenant je dois mourir sans y être préparé. » Je crois que vous avez raison d'être à cette conférence. Vous ne l'avez pas payée cher en plus et vous ne la payerez pas cher, elle est toute gratuite. Mais parce que finalement, ça vaut la peine de réfléchir à cette thématique. Ça vaut la peine de se projeter dans cette vie que nous avons et qui est belle. Franchement, j'aime trop la vie. Puis en même temps, avec cette réalité que la vie, elle prend fin à un moment donné. Denis Diderot, notre grand penseur encyclopédiste français, écrit « Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. » Qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranlent ? Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. Fin de citation. Saisissant, hein ? J'ai rencontré la femme de chambre d'un académicien. Alors, si vous ne voulez pas que vos secrets se dévoilent, n'embauchez pas de femme de chambre. Mais cette femme de chambre m'a dit que cet homme pleurait toutes les nuits. C'était super stressant, en fait, parce qu'il avait peur de mourir. Et je me faisais ce contraste entre cet homme assuré, probablement un peu coquin, comme sont tous les Français académiciens, un petit peu penseur, et puis ça en jette, quoi, les costumes d'académicien. Enfin, moi, je prêche pas comme ça le dimanche quand je prends la parole. Et voilà que cet homme, il arrivait à cette situation de fin de vie, et il était terrorisé. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit considérer. Alors, vous avez raison d'être venu parce que la mort est une réalité, mais aussi parce que la mort, elle révèle la vie ou l'essence de la vie. J'étais en République centrafricaine il y a pas mal, enfin maintenant je voyage beaucoup dans ces pays d'Afrique francophone, j'ai beaucoup d'amis, des gens que je respecte énormément, mais il y a une quinzaine d'années, j'étais pour mon premier voyage et j'étais perdu au milieu de la brousse. Et c'est des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et puis, on a appris que les rebelles, une rébellion qui avait commencé à émerger dans l'intérieur du pays, étaient en train de prendre le pouvoir ça devenait dangereux. L'ambassade française m'a dit « Vous restez en place, vous ne bougez pas. » Alors que je devais rentrer sur Bangui pour prendre l'avion et retrouver ma femme, nos trois enfants, bien-aimés. J'étais bloqué. Je commençais à voir mes amis qui faisaient leurs valises pour pouvoir fuir. Et pour comble de malchance, ce soir-là, il y avait des obsèques dans un village à côté. Et alors, les obsèques à l'africaine, ce n'est pas comme les obsèques en France. Il y avait des cris, il y avait du tam-tam, il y avait beaucoup d'émotions. Et là, je me suis dit, c'est sûr, c'était oppressant, hein, c'est ma dernière nuit sur Terre. Alors, j'avais ma lampe de poche, je n'arrivais pas à dormir, j'entendais les tam-tam, les hurlements, là. Je me suis dit, c'est la fin. Alors j'ai allumé ma lampe de poche, j'ai sorti un carnet, j'ai écrit un mot d'amour à ma femme, à mes enfants, toute la fierté que j'avais pour eux, que tout l'avenir qui s'annonçait. Et puis je me suis dit comme ça qu'on trouvera ça sur mon carnet, sur mon corps criblé de balles. Ils auront au moins quelque chose sur lequel se raccrocher. J'ai jamais été inquiété, c'est tout dans ma tête. Hein. Mais je dois vous dire que la mort, ça éclaire la vie. Parce que ce moment-là, j'ai réalisé ce qui était vraiment important en fait. Les relations qu'on noue, les liens que l'on a. Il y a des choses qui comptent, puis il y en a d'autres qui ne comptent plus. Franchement, il y a des choses qui ne comptent plus. C'était très intéressant comme expérience. Et puis enfin, une dernière raison pour laquelle vous avez eu raison de venir ce soir, c'est que l'espoir est possible. Il y a un historien qui s'appelle Georges Duby, il est maintenant décédé, mais il a donné une interview qui a été publiée dans l'Express en 1994, donc ça date un peu, mais il a affirmé que les hommes d'aujourd'hui ont plus peur de la mort que ceux du Moyen-Âge. Et il termine l'interview en disant « Ce que je vois surtout, c'est que le matérialisme ne satisfait pas l'immense majorité des gens. Ils sont en quête de quelque chose de plus. » Donc il y a cette angoisse que nous avons tous, hein, de bien vivre, puis d'essayer de ne pas mourrir, mais ça ne marche pas trop. Et puis on a toujours cette angoisse un peu existentielle. Et tant qu'on n'a pas trouvé de quoi ancrer notre espérance, ça continue de nous ronger, parfois plus ou moins clairement, ou plus ou moins de façon compréhensible à nos propres sens. Alors ce que nous allons faire ce soir, c'est qu'on va regarder différents scénarios. Et puis, donc je ne vous cache pas qu'on va regarder des scénarios auxquels je ne crois pas forcément, mais auxquels peut-être vous croyez. Moi, je vais vous présenter quelques arguments, quelques réflexions sur ce chemin. C'est votre chemin ensuite d'en faire une réflexion personnelle. On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, ok ? Ce n'est pas un souci. Et puis ensuite, de discuter de cela librement. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Mais le premier scénario que je voudrais... c'est pas dans le bon sens. Le premier scénario que je voudrais évoquer, c'est la perspective des athées. Et c'est vrai que c'est la perspective qui devient presque majoritaire en France. Je dis presque parce que les gens disent facilement qu'ils sont athées, mais en même temps, ils sont super superstitieux. Et donc, c'est un peu incompatible pour moi. Hein, les gens, je touche du bois. Ah. J'ai vu des choses assez amusantes. T'as perdu un objet, faut ouvrir un ciseau sur la table. Ah ouais. Et toi, t'es athée, moi je suis croyant. Et, bref, Jacques Monod dit l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Alors, on a en France des beaux spécimens que j'aime bien. Michel Onfray, par exemple, traité d'athéologie. Alors, d'apostrophe athéologie. Plébiscite remarquable et remarqué contre, non pas vraiment Dieu, la croyance en Dieu. Je trouve que c'est un plébiscite contre les croyants qui sont bêtes, et il a raison en fait. J'en fais partie, hein, je me permets, pour les autres excusez-moi, moi je connais mon cœur, hein. Je voulais pas vous offenser trop, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de m'inviter, tu vois. Mais toujours est-il qu'il parle très très fortement, contre Sponville également en France, très très fortement dans ce genre de choses. Alors pour quelqu'un qui est athée, la mort, ben, c'est juste la fin de la conscience. Après, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de crainte quelconque à avoir. C'est juste qu'on laisse quelque chose de bien. Plus ou moins bien, parce que ce n'est pas toujours bien la vie, mais voilà. Le problème, bien sûr, avec cette perspective, c'est que l'athéisme est une croyance. Hein. Faut au moins le regarder en ces termes. Il faut avoir cette lucidité. Un certain nombre de présuppositions sont nécessaires pour pouvoir... adopter l'athéisme comme fondement de notre vie. Alors, moi, personnellement, quelques arguments, mais ce n'est vraiment pas le thème, et ça mériterait qu'on fasse une autre conférence sur ce thème, donc je vais être vraiment rapide et pas le développer, mais il me semble que l'existence de l'univers est un vrai problème pour les athées. Parce que s'il n'y a rien, il faut quand même expliquer comment ça se fait qu'il y a quelque chose. Et ça reste un nœud, hein. Les gens disent bah, « le Big Bang ». Oui, mais le Big Bang, ça veut dire qu'il y avait de l'énergie. Ça veut dire qu'il y avait l'intelligence de lois qui se sont ensuite qui ont structuré l'univers. Et moi qui suis né dans une famille pas du tout croyante, assez opposée au christianisme, quand j'avais 14-15 ans, j'ai fait un stage d'astronomie, pas d'astrologie, hein, d'astronomie. On observait les étoiles la nuit, on avait des cours l'après-midi avec des astronomes. Et je dois dire que la beauté de l'univers et puis la structure, l'intelligence que reflétait cet univers... Ça m'a marqué. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Alors, ce n'était pas encore très clair dans ma tête. Mais l'existence de l'univers, pour un athée, c'est un problème, même si on essaie de l'expliquer assez vite. Troisième remarque, il y a une complexité interdépendante de l'univers qui fait que c'est assez surprenant comment ça marche, l'univers. Et le témoignage d'une intelligence est quand même un témoignage que l'on peut observer et qui ne dépend pas de la matérialité. Quatrième remarque, les gens sont très, très contre l'injustice. D'ailleurs, quand je discute avec certains de mes amis athées, la première remarque qu'ils disent, Dieu n'existe pas à cause de la souffrance. Bien sûr, c'est la première chose. Mais en fait, c'est une preuve extraordinaire, la souffrance de Dieu. Pourquoi ? Parce que si la souffrance n'est qu'une douleur, s'il n'y a pas de Dieu, alors c'est juste un signal nerveux, pas agréable, c'est sûr, mais ce n'est pas une injustice. Mais le fait même qu'on s'insurge contre le viol, contre des enfants qui sont maltraités, contre l'esclavagisme, contre toute une série de mal, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un bien, une vérité absolue quelque part, et donc c'est qu'il y a au-dessus un législateur, un être qui est au-dessus de cela. Et puis, ce qui m'a beaucoup impressionné et qui n'est pas explicable en termes de, d'athéisme, c'est la personne de Jésus-Christ et l'existence de la Bible. Mais ça, je suppose que quand je dis ça, ça ne vous convaincra pas. Peut-être pendant le temps de questions-réponses, ça pourrait être une question, je vous expliquerai pourquoi ça me parle énormément, parce que ce n'est pas explicable en dehors de l'existence d'un Dieu créateur. Ce que je veux souligner par là, c'est que croire en l'idée qu'après la mort, il n'y a rien, c'est quand même un pari. Et ce n'est pas forcément un pari qui est stable logiquement. Donc, il faut vraiment que vous creusiez la question suffisamment. Il y a de très bons livres qui peuvent vous y aider pour voir si Dieu est une option. Mais l'athéisme est vraiment une croyance et je vous encourage à l'évaluer en tant que telle. Un autre élément que je pense à une voisine que j'aime beaucoup, qui est une amie, qui, elle, ne jure que par les expériences de mort imminente. Ça vous dit quelque chose ? Alors, les expériences de mort imminente ont été mises en avant par un homme qui s'appelle Raymond Moody. Mais vu l'âge des gens ici, vous avez probablement jamais entendu parler de Raymond Moody. Mais à mon âge, et dans les milieux que j'ai fréquentés quand j'étais au siècle dernier, au millénaire dernier en fait, c'était la première personne, c'est un psychologue, et il allait voir des gens qui étaient morts. Pas morts et enterrés, morts et qui étaient revenus à la vie. Et il leur posait des questions. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes mort ? Alors, ils parlaient tous dans le livre « La vie après la vie » de quelque chose d'extraordinaire. Ils sortaient de leur corps, une expérience de décorporation, et puis ils montaient au travers d'un tunnel, parfois noir, parfois entouré de lumière, et ils allaient vers une lumière extraordinaire. Certains voyaient Bouddha, d'autres voyaient Jésus-Christ, d'autres voyaient la grand-mère. Et puis c'était super. Et malheureusement, ils revenaient. Boum ! Et ils revenaient dans leur corps. Et ça leur donnait, ça changeait leur expérience de vie. Et quand on lit les témoignages d'expériences de mort imminente, on a presque envie de mourir. Ne lisez pas ce genre de témoignages. Non, pardon. C'est-à-dire que c'est tellement fort comme bien-être qui est évoqué, que c'est vraiment touchant. Enfin, moi, je me délectais de ce genre de récit en disant, bah, voilà, c'est bon, quoi. La mort, c'est pas un souci. Il y a une vie après la vie, et cette vie, elle est belle. Et voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de réflexion ? Est-ce qu'on a le droit de pas craindre la mort parce que les expériences de mort imminente nous rappellent ou nous annonceraient une fin joyeuse après la mort ? Mais en fait, il y a un premier problème, c'est que tous sont revenus. C'est un problème. C'est qu'on n'est pas, on ne sait pas vraiment si on est confronté à la mort, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je vous montrerai, il y a un article qui est sorti sur La Recherche du mois de décembre ou novembre, je ne sais plus, ce sera affiché, où il y a un retour sur un certain nombre d'expériences qui ont été faites liées aux expériences de mort imminente. Mais le fait même que tous sont revenus, ça nous oblige à être un petit peu prudents pour imaginer qu'on est vraiment là face à la mort. Deuxième remarque, on a des expériences similaires possibles sans que la mort en soit la cause. Par exemple, si vous prenez du LSD, ne prenez pas du LSD, d'accord ? Mais si vous avez pris du LSD ou si vous connaissez des gens qui prennent du LSD, ils peuvent évoquer des expériences similaires dans un trip qu'ils expérimentent ou qu'ils vivent. Vous avez même des gens qui font des expériences de méditation transcendantale ou des expériences profondes de yoga et qui ont vécu ces expériences de décorporation et de monter au travers d'un tunnel avec une lumière au bout. Donc ça me dit qu'on n'est pas forcément, et en fait je ne crois pas qu'on soit, dans une situation de mort. On est en fait dans une situation que l'on ne connaît pas. Et par contre, le fait que ça puisse être vécu en dehors de la mort, ça nous conduit à penser que nous ne sommes pas face à la mort. Une troisième remarque, et ça, ça m'a vraiment ennuyé d'avoir été trompé, ou en tout cas j'ai eu le sentiment d'avoir été trompé par les livres de Moody, c'est que Moody ne parle que d'expériences positives, joyeuses, la banane, quoi, vraiment. Et en fait, il y a un autre homme qui a écrit sur ce sujet qui s'appelle Maurice Rawlings. Et lui, c'est un cardiologue. Et en tant que cardiologue, les gens qui meurent, il les voit en live. Enfin, comment le dire autrement ? Il s'en occupe tout de suite, quoi. D'accord ? Alors que Raymond Moody, c'est un psychologue. Et donc, il interroge les gens, parfois des mois, parfois des années après l'expérience. Et un jour, Maurice Rawlings, pardon, qui n'était pas un croyant, il fait faire un test d'effort à un homme dans son cabinet. Et voilà que cet homme meurt, infarctus du myocarde. Et moi, j'aurais crié au secours. Et lui, ça ne l'a pas inquiété. Il l'a mis par terre et massage cardiaque externe. C'est bien d'être formé à cela, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a ramené cet homme à la vie, il s'est mis à hurler « Je suis en enfer, sauvez-moi !» Les yeux, mais vraiment, bon, Rawlings, un peu habitué à des situations de choc et de stress, n'était pas vraiment gêné par cela. Mais le problème, c'est qu'il se met à mourir de nouveau, en tout cas, à faire un autre arrêt cardiaque. Et il l'a ramené à la vie, je crois, 6 ou 7 fois en tout. Et chaque fois qu'il revenait à la vie, il était dans un délire de peur, mais c'était saisissant au point qu'à la fin, il faisait vraiment un massage cardiaque motivé par les émotions. Alors, il a pu stabiliser son patient, il l'a fait amener dans un hôpital. Et puis, assez rapidement après, quelques jours plus tard, il a pu se libérer et il a voulu rendre visite à son patient. Devinez quelle question il a posée. Bien sûr. Alors, vous allez bien, tant mieux. Bon, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez vu? Et le gars, il a dit, c'était extraordinaire. Je me suis senti sortir de mon corps dans une paix, dans une joie. Et j'ai vu un tunnel. Et après, je ne sais plus exactement les détails de cette histoire. Et donc, Rawlings, il a dit, attendez. On n'a pas vécu la même histoire, là. Moi, vous avez hurlé votre peur quand je vous ai ramené à la vie. Peur? Pourquoi? Vous disiez que vous étiez en enfer. Enfer? Pas du tout. C'était génial. Alors, la conclusion de Rawlings, à laquelle je n'adhère pas, hein, mais la conclusion de Rawlings, c'était de dire que, en fait, lorsqu'il y a des bad trips, hein, lorsqu'il y a un mauvais voyage, c'est tellement difficile à maintenir dans sa conscience qu'on le remplace par un beau voyage. Et en fait, lui, il en est venu à se poser des questions qui étaient de l'ordre métaphysique pour réfléchir à la foi. Et il a réfléchi à la foi chrétienne d'où il venait, il a renoué avec ses racines et est devenu plus attaché aux notions d'évangile sur lesquelles je terminerai tout à l'heure. En tout cas, voici ce que la recherche dit. Alors, on ne peut pas dire que c'est une revue chrétienne, hein, donc il n'y a pas de favoritisme dans ce que... Mais voilà ce que ça dit. Dans le cadre d'une recherche multicentrique regroupant 15 hôpitaux britanniques, américains et autrichiens entre juillet 2008 et décembre 2012, des chercheurs ont eu l'idée de dissimuler à proximité du plafond de bloc opératoire des images invisibles à un patient couché sur la table d'opération. Que des expérienceurs... donc ce sont ceux qui sont morts, hein, soient parvenus à faire état de la présence de ces images cachées en hauteur, tendrait à prouver que la conscience est probablement dissociable du corps. Mais, pour l'heure, aucun patient n'a rapporté avoir vu ces images, comme le relate l'étude AWARE. Okay. Donc, si vous comptez sur les expériences de mort imminente pour avoir une fin heureuse, peut-être vous devez vous méfier, parce qu'il n'y a aucun fondement expérimental que ces expériences sont dignes de fiabilité. En fait, c'est probablement un état altéré de conscience que l'on ne sait pas encore expliquer, mais qui peut-être n'a rien à voir avec la mort. On sait, c'est difficile d'ailleurs à définir la mort s'il y a des médecins dans la salle. Vous savez que c'est pas une question si facile. Enfin, bien sûr, on a des critères maintenant qui sont assez établis, mais voilà, c'est pas une situation aussi facile. Ça va, vous tenez le coup? Vendredi soir, fin de semaine? Félicitations, je donnerai des médailles à ceux qui resteront éveillés. Non, c'est pas vrai, je n'en ai pas. Hein, je n'en ai pas. Je ne veux pas qu'il y ait de plainte ensuite pour promesses mensongères. Les spiritualités orientales, elles, ont une autre façon de voir la vie et la mort. Et ça, c'est de là d'où je viens, moi. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, quand j'étais haut comme une pomme à genoux à l'école, hein, 4-5 ans, je rentrais chez moi, je rentrais dans l'appartement de mes parents et il y avait un Bouddha en or, devant lequel il y avait de l'encens qui montait. Ma mère avait fait des caches sur les fenêtres pour que ce soit un petit peu plus le look hindou. Baba cool, mes parents. Je les aime beaucoup, hein, ils sont formidables. Mais moi, ils m'appellent le mutant. Clairement, on n'est pas de la même... Bref. Et donc, dans la situation des spiritualités orientales, peut-être vous connaissez les scénarios qui sont proposés. Et ce sont des scénarios qui sont extrêmement populaires. Il y a un sondage paru sur l'Express qui disait, bon, il y a déjà quelques années, mais je pense que les chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis, c'est que 24% des Français croiraient en la réincarnation ou disent croire en la réincarnation. Il y a ce journaliste, il y a cette citation que je trouve intéressante. Je vais souvent chez doctissimo.fr. Ne vous moquez pas, c'est pas gentil. Et dans le cadre de recherches approfondies, je suis tombé sur cette citation. Moi, j'y crois très fort et j'espère que ce n'est pas qu'une façon de me rassurer. J'ai trouvé ça génial. Moi, je respecte. Enfin, franchement, le gars, il est honnête avec lui-même. Et puis, en même temps, c'est dur de vivre, c'est dur la mort. Enfin, voilà. Est-ce que c'est qu'une manière de se rassurer ? La réincarnation, ça présuppose quoi ? Ça présuppose que l'être humain est composé d'une entité spirituelle et d'une entité corporelle, matérielle. Et à la mort, les deux se séparent. Et en fait, un chrétien dirait la même chose. Hein. Probablement les musulmans aussi, je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais probablement les musulmans aussi. Et ce qui se passe, c'est que pour ceux qui croient à la réincarnation, l'âme sortirait du corps et puis parcourrait un périple qui est très court chez les druzes, c'est quasiment instantané, qui dure 144 ans chez les rosicruciens, c'est le cycle de vie, 1400 ans chez les théosophes, hein, il y a différentes manières, 49 jours chez les tibétains. Voilà, selon le camp, le périple est plus ou moins long. Et puis, on revient ensuite pour payer pour le mal que l'on a fait dans une vie précédente ou pour profiter du bien que l'on a fait dans une vie précédente, avec pour idée de s'améliorer de vie en vie. Et ce serait pour ça que Bach a réécrit de la musique très tôt, quand d'autres arrivaient à peine à faire du vélo. L'un était musicien des vies précédentes, l'autre faisait à peine du vélo. Bon. Alors, Roger Hauck, je crois qu'il est décédé, c'est un journaliste, puis un espion aussi, enfin, il a une vie assez romanesque, hein, a écrit « Je dois reconnaître que bien des personnes rencontrées au cours de ma vie de journaliste sont décédées de mort violente, c'est ainsi. J'ai toujours entretenu un rapport particulier avec la mort. J'ai vécu comme si j'allais moi-même mourir demain. Le danger, la peur de disparaître à jamais sont des choses qui m'attirent car elles me permettent de mieux me comprendre. C'est en raison de tout cela, sans doute, que je crois en Dieu. Mon expérience d'otage a précipité les choses. Aujourd'hui, miné par la maladie, aux portes d'une issue que je sais fatale, j'ai envie de penser à l'au-delà. Quand je serai parti tout là-haut dans le ciel, j'aimerais être réincarné en albatros. Même si je suis chrétien, je crois en la réincarnation. Je suis un peu touche-à-tout, en fait, même dans mes convictions profondes. L'oiseau, c'est la liberté. Mon vœu est de ne pas finir enfermé dans un cercueil. C'est trop angoissant. Et on trouve beaucoup de gens qui, aujourd'hui, expriment leur foi en la réincarnation. Paco Rabanne. Non. J'essayais de voir s'il y en avait qui portaient ces parfums. Des scientifiques, Bassarab, Nicolescu, Patrick Drouot, Fridtjof Capra. Si vous ne les connaissez pas, je vous donnerai ce qu'ils ont fait en termes de scientifiques. Des artistes, Tina Turner, Jean Le Poulain, Paco Rabanne, je l'ai mentionné, Shirley MacLaine, Sylvester Stallone, et puis beaucoup de gens autour de nous qui croient en la réincarnation. Alors bien sûr, ça enlève toute peur de la mort, hein. Moi, je me souviens, j'étais à préado, j'étais en Allemagne, échange scolaire, et puis un grand-père de la famille était décédé, puis il y avait des obsèques. Et je lui disais, c'est pas grave, il va revenir. C'est vrai que ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette uniquement en Occident. Il faut savoir qu'en Inde, la réincarnation, c'est une malédiction. Hein. On cherche à sortir le plus vite possible. En France, on veut retrouver sa famille, ses amis, la bière, enfin voilà, des choses importantes, quoi. Hein? Alors, est-ce que la réincarnation, c'est quelque chose de fiable? Je ne crois pas, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un dilemme terrible pour ceux qui souffrent et pour ceux qui les entourent. Et le premier, c'est que la loi de la réincarnation est gérée, enfin, la réincarnation, le phénomène de la réincarnation est géré par la loi du... Ça vous dit quelque chose? Le karma? Cette loi du karma est une loi de rétribution et de récompense. Ça a pour conséquence que ceux qui souffrent, ils souffrent à cause de qui? Ben oui, d'eux-mêmes en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Inde, les castes sont si étanches les unes aux autres. Vous n'allez pas aider un intouchable. Pourquoi? C'est de sa faute. On va le laisser payer. Après, ça ira. Moi, j'ai vu ça de première main quand j'étais avec notre troisième enfant. Laissez-moi vous expliquer. Quand ma femme est enceinte, Elle est super malade, mais malade quoi. Elle vomit tout ce qu'elle avale, faut le mettre sous perf. Elle vomit et en plus elle crache, enfin parce qu'il y a une sécrétion excessive de ça. Désolé, j'ai pas trop mangé au buffet, mais au troisième enfant, ils étaient tous en bas âge, au troisième enfant, mes parents ont proposé de nous héberger. C'était sympa, moi je pouvais travailler, parce qu'en tant que pasteur, on travaille juste le dimanche, donc c'était. Le matin même, le matin. Donc je pouvais partir au travail et puis garder un peu les enfants. Puis ma femme était dans notre chambre avec la perf, les seaux de vomi, enfin c'est romantique quoi. Et un jour je rentre et puis je vais la voir et je lui dis que ça va. Puis elle me regarde, je sentais que c'était pas vraiment la bonne question. Elle me dit ton père est rentré dans la chambre. Je dis ah. Il m'a regardé. Il m'a dit juste une chose. Qu'est-ce que tu as dû commettre comme mal dans une vie précédente pour souffrir autant ? Heureusement qu'elle était trop faible. J'aurais craint un meurtre. Ou pire, un saut de vomi. Mais en fait, il a raison, il est cohérent. Si vous souffrez, c'est de votre faute. Et moi, je ne vais pas venir vous aider. Il faut que vous buviez la pilule de cette souffrance, puis après, ça ira. C'est comme ça que Shirley MacLaine a dit comprendre pourquoi un bus était tombé dans un ravin en Amérique du Sud, tuant tous ses passagers. Ils avaient choisi de venir souffrir. C'est violent, hein. Soudainement, la réincarnation, c'est moins cool, hein. Ça dépend comment votre vie tourne. Quand votre vie tourne bien, vous dites, bah oui, j'ai fait le bien avant. Et puis quand il y a une souffrance, bah forcément, c'est soudainement, vous êtes super. En plus, vous êtes coupable. Une autre situation, une autre remarque qui me gêne par rapport à la réincarnation, c'est que si le mal engendre la souffrance à cause de vous, bah, il faudra que vous subissiez cette souffrance que vous avez commise. Je m'explique. Si vous avez commis un meurtre, eh bien, il faudra que dans une vie suivante, vous subissiez un meurtre pour pouvoir comprendre. Donc, il y a le cycle permanent de la souffrance qui est dans cela. Une autre remarque, c'est la croissance du mal. Je suis frappé de voir que le monde ne s'améliore pas. Enfin, encore une fois, il y a des périodes formidables. Moi, je trouve que les périodes que nous vivons en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale est magnifique. Hein. Enfin, à peu de choses près, hein. Peu de choses près, mais quand même. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer à l'échelle de l'histoire. Mais dans le monde entier, il y a plus de morts à la guerre aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Enfin, bon, bien sûr, la population augmente, mais ça, c'est violent de plus en plus. Hein. Ça dépend quelle mesure vous prenez. Comment ça se fait si la réincarnation est censée améliorer les êtres humains? Et puis, il y a bien sûr le problème de la croissance de la population. D'où viennent les âmes qui arrivent, hein, parce qu'on est, c'est exponentiel comme croissance. Comment on explique cela? Alors, il y a des données qui sont évoquées, puis si ça vous intéresse, on pourra en parler, je ne vais pas rester trop dessus. Et enfin, l'absence de preuves. C'est là-dessus que j'ai écrit un livre sur les preuves liées à la réincarnation, le souvenir des enfants, les régressions sous hypnose. Si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Ou bien on peut en parler tout à l'heure pendant le temps de questions. Mais il n'y a aucune preuve pour la réincarnation. Il n'y a aucune preuve. Je les ai étudiés. J'ai regardé ces bouquins qui ont été évoqués. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a d'autres explications. Et ce qui nous permet d'arriver à un autre, donc ça fait 1, 2, 3, 4, hein, je crois, une autre formule qui est celle des religions monothéistes, à laquelle je n'adhère pas. Ça va surprendre, hein. Je vous expliquerai dans un instant. Mais dans les religions monothéistes, la chose est très simple. À la fin de votre vie, on place sur le côté de la balance vos œuvres bonnes et de l'autre côté de la balance vos œuvres mauvaises. D'accord ? Et selon comment ça s'équilibre ou pas, eh bien, vous allez en enfer ou bien au paradis. D'accord ? Donc, je vais vous citer quelques textes. Par exemple, les textes du catholicisme. Là, je m'appuie sur le catéchisme catholique. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. Et donc, dans la pensée catholique, vous devez avoir commis des bonnes œuvres, et puis aussi vous devez avoir pratiqué les sacrements de manière à ce que ça équilibre vos œuvres mauvaises. Je vous lis quelques sourates dans l'islam. Il est dit, voici deux clans adverses qui sont mis en litige à propos de leur Seigneur. Ceux qui ont nié Dieu se sont vus couper des vêtements de feu, tandis qu'on leur déverse sur leur tête de l'eau bouillante. Elle leur fait fondre ce qu'il y a dans leur ventre ainsi que les peaux. Ils ont des fouets de fer pour les empêcher de quitter la fournaise. Toutes les fois qu'ils veulent en sortir à cause de l'oppression qui les étouffe, on les y fait retourner et, entre guillemets, goûter au supplice des brûlures. Dieu introduit ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. Ils y sont parés avec des bracelets d'or et des perles et leurs vêtements y sont de soie. Donc, l'enfer brûlant d'un côté ou bien de l'autre côté, le paradis. Et puis dans le judaïsme, les choses sont un petit peu similaires. L'obéissance aux commandements sont nécessaires pour pouvoir être et bénéficier de la mansuétude de Dieu. Les croyances après peuvent varier selon les mouvances, mais il y a grosso modo l'idée soit d'une rédemption possible, soit d'une éternité séparée de Dieu. Ça devient sérieux tout ça? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors si vous me permettez pour clore et pour terminer, encore si vous avez suffisamment de patience, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, j'aimerais juste terminer avec la perspective biblique, qui n'est pas la perspective des religions monothéistes. Et cette perspective, elle est pleine d'espérance, c'est pour ça que ça me semblait importante de la citer. Mais juste avant, je voudrais vous expliquer pourquoi les perspectives monothéistes me semblent problématiques. Premièrement, je trouve que c'est assez injuste, n'est-ce pas? Parce que si vous avez une bonne éducation, il y a de fortes chances, et notamment une éducation religieuse, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'échelle des êtres humains plutôt vers le haut. Donc vous auriez plus de chances d'aller au paradis que ceux qui ont appris à voler pour vivre, qui ont grandi dans un foyer violent où le père était même abusif. Je trouve que c'est vachement injuste, si c'est le cas. Donc quand on est dans une bonne famille, on a de meilleures chances que quand on est dans une famille un peu déstructurée. On sait que quand on grandit dans une famille violente, ma femme a vu la série sur Netflix Dirty John. J'étais en déplacement, je n'ai pas pu la voir avec elle, mais je lui ai pardonné. Cette série montre un type qui a grandi dans une violence et un abus de son père et qui lui-même a transmis ça, quoi. Alors ça n'excuse rien, on est responsable de soi, je ne veux pas victimiser constamment les êtres humains, mais quand même. Et tout cet environnement-là, on ne l'a pas choisi. Environnement familial, environnement amical, environnement... Et donc je me dis, ce serait vachement injuste si ça dépendait, si notre éternité dépendait de cet environnement finalement. Alors je termine avec le christianisme biblique, et il a pour fondement qu'il est lié à une personne. Il n'est pas lié à une religion, il est lié à une personne. Et cette personne dit, c'est Jésus-Christ, elle dit « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Alors, s'il y a une phrase à garder de cette soirée, c'est ça. Franchement. Parce que Jésus prononce ça alors que Lazare est mort depuis 3 jours, que son corps commence à se décomposer et qu'il sent mauvais. On est en Moyen-Orient, il fait chaud. Et les corps comme ça, ça se décompose très vite. Et il dit ça aux gens qui l'entourent alors qu'il va ressusciter Lazare. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Moi, enfin, Jésus dit, pas moi, d'accord. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Là, il y a une espérance qui va au-delà de la mort. Et c'est ça qui me bouleverse et qui m'a bouleversé quand j'avais 18 ans et que je voudrais évoquer. Alors c'est certain, il y a clairement un croisement. Il y a clairement une éternité avec Dieu ou une éternité sans Dieu. C'est pourquoi la question, elle est solennelle, elle est super importante. Et je ne veux absolument pas minimiser ce que la Bible présente. Et on parlera dans un instant de cela. Soit on meurt et on va avec Dieu pour l'éternité, soit on meurt ou on est éloigné de Dieu pour l'éternité. Mais cela ne dépend pas de nous-mêmes comme si nous étions des méritants. Que Dieu donnerait une médaille à certaines personnes en disant « Toi, t'es franchement génial, tu peux venir. » Non, pas toi. C'est pas comme ça que ça se configure. Ça se configure sur la base d'un attachement à une personne qui a vécu la vie dont nous avions besoin à notre place et qui nous offre un plein pardon et une relation avec lui. C'est ce que je voudrais un petit peu évoquer avec vous. Alors je sais que quand je parle de jugement et un jugement éternel, il y a des gens qui disent « Ah non, mais c'est inacceptable, c'est vachement dur ça. » Et je suis conscient que c'est une notion dure. Mais quand vous y réfléchissez, en fait, c'est une notion nécessaire. Je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que vous aimeriez vous réveiller au paradis à côté de Hitler ? Soudainement, c'est moins sympa le paradis, n'est-ce pas ? Sauf si Hitler était transformé. Ah, mais ça, c'est justement ce que Christ propose. Mais je ne crois pas que cet homme ait accepté cela. Et finalement, sans jugement, le paradis serait une prison. Pourquoi ? Parce que vous seriez obligé d'y être. Mais si vous êtes obligé d'y être, ce n'est pas un choix libre. Comment est-ce que vous pourriez être heureux si on vous imposait d'aller au paradis ? C'est un choix libre qui dépend d'un choix aujourd'hui, qui est de se tourner vers Jésus-Christ. Et donc, je trouve que c'est super parce que ça nous responsabilise dans notre démarche. Donc, ouais, sans jugement, le paradis serait une prison parce qu'on serait forcé d'y aller. Et puis avec Hitler, le paradis, ça serait de l'être. Et puis avec trois petits points, parce que je ne veux pas que vous le remplissiez, hein, je ne veux pas entendre mon voisin. Mais il y a certaines personnes, on se dit, ce serait compliqué, quoi. Franchement, là, nous, en France, on est français, la plupart. On est râleurs. On est râleurs, non ? Enfin, je ne sais pas, mais quand on se regarde, on est franchement râleurs. Ça cesserait d'être un paradis, non ? Je veux dire, on râlerait de tout. Ah, mais il faut en plus aimer Jésus. Mais ah non, ça ne va pas, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça deviendrait infernal. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on reste connecté à ce à quoi on s'est connecté dans notre vie. Et un monde juste et paisible ne peut venir que d'un juge qui impose sa justice. Et donc forcément, c'est une nécessité, ce jugement. Mais ce jugement, il a été porté par celui dont on parle. Et je vais bientôt m'arrêter. Mais il y a une phrase que l'apôtre Jean prononce et que je trouve magnifique et qui pèse sur notre sujet. Et elle dit ceci. « Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. » Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est touchant, non ? Alors, première remarque. Le paradis est un cadeau. Ce n'est pas un achat. Vous avez remarqué, voici ce témoignage. Dieu nous a vendu, donné. Il nous a donné la vie éternelle. Il y a quelque chose, Dieu donne gratuitement, pleinement, généreusement, avec bienveillance, sa présence, son paradis. Deuxième remarque, le paradis est une relation à Jésus, c'est pas une religion, c'est pas un mérite. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que c'est comme si Jésus c'était une vie qui se transfère dans mes veines. C'était son sang qui se coule dans les miennes. C'est comme si sa mort et sa résurrection, elle devient mienne. Et donc, quand je suis lié à lui, je suis lié à cette vie. Et ça ne dépend pas donc d'une religion, ça dépend d'une connexion à lui. Et enfin, troisième remarque, c'est une assurance. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. Pas afin que vous aimeriez, mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous reconnaissez ? Penseur ? Vous n'êtes jamais posé la question à quoi il pensait, le penseur ? Pendant des années, je me suis dit, il est là comme ça, il dit, zut ! J'ai oublié mes chaussettes ! Pas que les chaussettes, d'ailleurs. C'est interdit au moins de 16 ans. En fait, j'ai été scotché d'apprendre que cette statue est en fait une petite statue qui se trouve au-dessus d'une immense statue. Enfin, immense, 2 mètres. C'est qui d'ailleurs, l'auteur ? Rodin. Hein. Vous savez le titre de cette sculpture ? Cette sculpture s'appelle « La porte du séjour des morts ». Et à gauche, vous avez... Alors, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, il faudrait regarder de plus près. Vous avez l'enfer. Et de l'autre côté, vous avez le paradis. Ah, je commence à comprendre à quoi il pense, le penseur. Il se dit, je vais où ? C'est la seule question vraiment importante. On va vivre quelques années sur Terre, 60, 70, 80, 100 peut-être, je ne sais pas. Mais après, c'est l'éternité. Et comme le dit, c'est Woody Allen qui disait, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Enfin bon, c'est important vraiment de se poser cette question. Et le penseur, il réfléchit à sa destinée. Et en cela, c'est la question qui nous préoccupe tous. Il est là et il se dit, je vais où ? Alors, si vous n'avez pas l'assurance vis-à-vis de cette question, considérez, c'est la dernière phrase de la Bible que je vais vous montrer, c'est promis, je m'arrête après. Mais cette phrase, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, et il dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché. Alors, ça gratte au mauvais endroit hein, quand on entend ce langage. Hein. Enfin, j'imagine. En tout cas, moi, né dans un milieu plutôt New Age, le péché, ça c'est bien les chrétiens, la culpabilité. Tous ont péché. Mais ce que j'aime beaucoup dans la philosophie ou la spiritualité de la Bible, c'est que la Bible ne fait pas de distinction dans le niveau. C'est-à-dire que le menteur, aux yeux de Dieu, il est comme l'adultère et il est comme le tueur. Et je dois dire, dans mon cœur, il y a tous ces éléments que j'ai cités. Et ça veut dire qu'un gamin qui a grandi dans les ghettos de, je sais pas moi, des villes sud-américaines, il a autant de charges de péché qu'un beau gosse BCBG des banlieues lyonnaises. N'est-ce pas ? Tous sont péchés, quel qu'il soit. Il n'y a pas de taille et de dimension aux yeux de Dieu. Mais voilà la bonne nouvelle. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Grâce, c'est faveur, c'est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une délivrance qui vient en Jésus. Pour l'illustrer, notre péché invite un jugement. Et lorsque Jésus vient sur terre, il porte ce jugement. Et il dit, maintenant, la seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance. Explicitement, exclusivement, personnellement, directement. Et dans cette connexion, de cœur à cœur avec Jésus, Dieu déverse une vie nouvelle. C'est ça le message du christianisme biblique. Et j'espère que ça vous a donné un survol et un aperçu à la fois des options qui sont possibles et puis de l'espérance que, bien sûr, je ne suis pas neutre, hein, on ne m'en cache pas, que je défends, mais qui est tellement belle. Et donc, je vous remercie d'avoir pris ce temps pour y réfléchir et en discuter ensemble. Et j'imagine bien que je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser et je serais heureux d'essayer de répondre à vos questions si je peux. Je veux avoir le droit aussi de pouvoir dire « je ne sais pas ». Ok ? Merci en tout cas. Voilà. Merci. Alors je sais que la première question est toujours la plus difficile. On va passer à la seconde. Hein ? Elle est facile, hein, celle-ci.
Dans la pensée de la réincarnation, il n'y a jamais de fin. Ou alors, s'il y a une issue, laquelle ?
Alors, tout dépend de la mouvance auquel on se réclame. C'est-à-dire qu'il y a une mouvance qui est assez plutôt occidentale et qui imagine un paradis que l'on atteint après plusieurs réincarnations. C'est aussi le cas des kabbalistes, du mouvement du judaïsme un peu orienté sur ce que nous on qualifierait d'occultisme ou d'ésotérie. Donc ça, c'est un peu la perspective qui est proposée. Après, il y a d'autres scénarios. Par exemple, dans certains scénarios, on devient Dieu soi-même. On devient Dieu, alors ne mettez pas ça sur votre carte de visite, ça ferait un peu prétentieux, mais on devient Dieu dans l'idée que on devient, alors pour certains c'est vraiment une divinité parmi d'autres divinités. Dans d'autres spiritualités, on devient uni au grand tout qui n'est pas définissable comme une entité avec une conscience. Et le bouddhisme, alors, le bouddhisme tel qu'il est, c'est une spiritualité très complexe, je ne la connais pas suffisamment. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de réalité objective, n'est-ce pas ? Votre existence même est fausse. Il faut apprendre par les exercices et par la méditation à se détacher de cette réalité. Et donc, dans cette perspective, lorsque quelqu'un meurt et se réincarne, ce n'est pas trop la conscience qui est fausse, enfin qui n'existe pas, qui se réincarne, mais plutôt le principe vital qui se réincarne. Un peu comme une bougie donne naissance à une autre bougie, enfin, une autre flamme. Donc, c'est, voilà. Donc les scénarios sont très divers et ça dépend des mouvances auxquelles on appartient. D'autres questions? Oui. Alors le scénario biblique tel que je le comprends, c'est qu'à la mort, l'âme ou l'esprit, on va l'utiliser de façon interchangeable, se sépare du corps et demeure conscient en attendant la résurrection. Donc, mais dans sa conscience, il est soit avec Dieu, soit dans l'absence de Dieu, dans la conscience aussi de cette réalité que la personne ne s'est jamais unie à Dieu. Parce que la Bible dit, c'est assez fascinant, on voit Jésus parler à un religieux, alors un religieux que... comme vous le savez, ce sont des gens bien. J'ai entendu les rires. Mais généralement, on se dit, un religieux, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas? C'est évident, c'est un proche du gros patron. Là. Enfin voilà, vous voyez, je suis vulgaire en disant ça, mais c'est un peu l'idée qu'on s'en fait. Jésus parle avec un religieux, Jean 3. Et le religieux, on a le sentiment qu'il essaie de commencer la conversation un petit peu... on est collègues tous les deux. Et Jésus le coupe. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Donc, c'est en Jean chapitre 3 pour ceux qui voudraient le lire. Et donc, naître de nouveau, en grec, c'est aussi naître d'en haut. C'est les deux, ça peut se traduire des deux manières. Et l'idée, c'est qu'on naît, on vit, on meurt, et tant que l'on reste terrestre sans union à Dieu, ben, à la mort, on reste terrestre sans union à Dieu. Dans la perspective biblique, il faut renaître, il faut naître d'en haut, il faut qu'il y ait une infusion de Dieu dans un cœur. Il faut que Dieu nous fasse renaître. Et ça change tout, quand Dieu rentre dans un cœur, ça change tout. Moi, je me souviens, c'était juillet 84, ça a tout changé dans ma vie. Ma femme aussi, enfin, on ne se connaissait pas à l'époque, on était drogués, alcooliques, tout ça. Quand Christ est entré dans sa vie, ça a tout changé. Dieu change les vies, vraiment. Il donne de l'espoir, il donne une vie nouvelle. Et donc, lorsqu'il y a une renaissance, c'est comme si Dieu nous adoptait, on est dans sa famille, et quand on meurt, ben, on va dans sa maison. Alors, je ne sais pas à quoi elle ressemble, hein. Il y a très peu d'indications dans la Bible par contre. Mais on reste conscient en attendant un jour qui pourrait être tout à l'heure, dans 1000 ans, personne ne sait, un jour qui sera la résurrection. Et effectivement, après il y a une vie de ressuscité avec Christ, avec Dieu, avec tous ceux que Dieu a sauvés. Mais ça c'est un autre sujet. Hein. Ok. Ouais. Oui. C'est ça. Waouh, c'est une super question. Oui, alors, il y a les images de Dante hein, qui nous hantent, où on voit des démons qui torturent leurs victimes dans des bassines bouillantes. Hein. La Bible est entièrement à l'opposé de cette image. Dans quel sens elle est à l'opposé? La Bible dit, déjà Jésus dit, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Donc ils seront au plus profond de cet enfer. D'accord? Il n'y a pas de torture de la part des démons. Il n'y a pas non plus de torture intrinsèquement que Dieu viendrait remuer une sorte de bouilloire malsaine. Par contre, il y a une vraie torture qui me semble effectivement évoqué par des flammes, mais ça me semble être une métaphore, pour évoquer quoi? Je ne sais pas si vous avez, ici et là, des regrets. Vous êtes probablement trop jeune pour en avoir de vrais. À mon âge, on en a. On s'est planté, on s'est vautré. On a de vrais regrets. Et dans ces moments-là, le regret, ça vous bouffe la vie. Et moi, je pense que l'enfer, c'est ça. C'est de dire, j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu a tendu la main en Jésus-Christ et j'en ai pas voulu. Et je crois que cette image de souffrance me semble être plus cette souffrance d'avoir consciemment rejeté l'être le plus aimant, mais aussi qui ne s'impose pas, quelque part. Enfin, c'est dit d'une certaine manière, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Et en cela, il y a, je crois, dans l'expérience de l'enfer, tel que la Bible en parle, il y a une immense et profonde tristesse et solitude. Parce que la racine du péché, si on peut la définir, c'est l'indépendance. Donc avoir vécu de manière indépendante, autonome, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de Dieu, et puis d'arriver à la fin du chemin en disant « je suis tellement seul et c'est tellement triste », c'est probablement la pire des souffrances. Voilà comment j'en parlerai. D'autres questions ? Oui ? Alors ça touche un autre question, un point. Si, j'ai une réponse. Je trouve exceptionnelle la sobriété des récits de la Bible. Je vous explique. Si j'avais été au moment où Lazare aurait été ressuscité, je l'aurais pris à part. Maintenant, bonhomme, tu vas tout me dire. Est-ce que Jérémie continue de pleurer? Pardon, c'est d'autres dans la Bible. Bref, ça, c'est des questions qui nous intéressent, n'est-ce pas? Et la Bible, elle est d'une sobriété par rapport aux événements historiques. Et je me souviens du témoignage c'était un homme de droit qui a étudié les évangiles et qui a notamment étudié les éléments du procès de Jésus. Et lui, il arrive à la conclusion que les récits des évangiles, donc c'est un homme de droit, c'est-à-dire qu'il évalue constamment la question légale de la véracité des preuves pour les jugements, les tribunaux, etc. Et il dit la manière dont les évangiles posent le récit montre qu'il est fiable. Parce qu'on fait appel à aucune émotion, il n'y a aucune manipulation, il y a juste les faits bruts, alors qu'on a précisément envie de ce genre de réponse. Alors on ne parle pas la Bible. Elle est très factuelle, parce qu'elle pointe vers quelque chose de plus grand, qui est le pardon des péchés et la personne de Christ. C'est l'une des preuves de la fiabilité de l'Écriture. Il y en a 10 qui me semblent importantes, mais c'est l'une des preuves de la fiabilité des Écritures. Et quand j'écoute les gens qui sont des faux guérisseurs, par exemple, aujourd'hui, je suis marqué combien ils brodent. Ils brodent, ils brodent, ils brodent, et ce n'est pas crédible. La Bible, elle est d'une simplicité. Et on dit ça, c'est des gens qui ont vu. D'autres questions ? Oui ? Alors, le purgatoire est une invention. Enfin, excusez-moi, je veux respecter mes amis catholiques ici. Hein, j'ai rien contre. Mais bibliquement et historiquement, le purgatoire est une invention qui vient de plusieurs observations. C'est-à-dire que au début de la vie de l'Église, les gens devenaient croyants en tant qu'adultes, ou en tout cas personnes capables de comprendre, et ils se faisaient baptiser en tant que personnes capables de confesser leur foi. Le livre des Actes n'offre que ce genre de scénario. Et donc la Bible présente un christianisme de conversion. On ne naît pas chrétien, on le devient. Mes enfants ne pouvaient pas dire « mon père est pasteur, donc je suis chrétien ». Non, non, t'es pas un chrétien. Jusqu'à ce que tu réalises ce dont j'ai parlé, tu n'es pas chrétien. C'est à toi, si tu le veux, de devenir. Mais moi, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas grand-père. Hein. Il est père ou il n'est pas père, c'est tout. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une décision. Alors, bien sûr, c'est poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand un enfant meurt en bas âge ? Donc, il y a eu pas mal de réflexions. Et puis, il y a une pratique qui a commencé à naître en disant ben, « ce serait quand même bien qu'il soit baptisé ». Avec l'idée que le baptême est un peu comme la circoncision de l'Ancien Testament, c'est un rite initial. Alors, ça ne sauve pas l'individu, mais au moins, ça le place dans de bonnes conditions, quoi. Quelques gouttes, ou bien immersion à l'époque, même des enfants. Encore comme c'est le cas dans l'Église orthodoxe, où on immerge 3 fois un nourrisson pour le baptiser. Et puis après est née cette notion, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui n'a pas été baptisé ? Alors, on a commencé à parler des limbes. Et puis on a commencé à évoquer cette notion un peu de il y a des espaces où ceux qui ne sont pas sauvés peuvent être. Et ça a donné naissance petit à petit à cette idée que probablement que si on n'a pas vraiment confessé tous ses péchés avant de mourir, il y a un moyen de payer par la souffrance ces péchés-là. Mais c'est absolument pas comprendre ce que Christ a fait à la croix. Parce que lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt pour toutes nos fautes. Enfin, si vous le reconnaissez comme votre réparateur, votre vie, votre chemin, celui qui est mort pour vos péchés, votre sacrifice. Chaque fois que vous mangez un beefsteak, il y a un animal qui est mort pour vous. Hein. C'est ça qui vous fait vivre. Et c'est une image de Christ. Christ est mort pour nous. C'est lui, c'est par lui qu'on peut vivre. Il n'y a que par lui qu'on peut vivre. Et donc, quand Christ meurt à la croix, il paye pour tout. Et donc, il n'y a pas à obtenir par ses œuvres, par sa souffrance, la moindre notion pour compléter le salut. Je pourrais vous donner d'autres références plus précises, parce que je n'ai pas la doctrine catholique en tête, mais je sais où trouver quelques informations à ce sujet. Tout à l'heure. Ok ? Ouais.
Et du coup, un enfant qui meurt.
La Bible ne donne pas de réponse catégorique à cette question, donc je me garderai d'en donner. Mais elle donne des pistes d'espoir. Pourquoi ? Parce que lorsque David voit son fils qui meurt après la naissance, il dit, très conscient de son salut, « Moi, j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. » Et donc, il y a plusieurs scénarios qui ont été évoqués. Je peux aussi te donner quelques pistes plus précises à ce sujet. Plusieurs scénarios qui ont été évoqués, mais je suis assez serein d'une grâce imméritée, qui ne serait absolument pas du fait qu'un enfant ne serait pas pécheur, ce n'est pas l'idée, d'une grâce imméritée pour certaines personnes qui n'ont pas l'âge de la responsabilité. Parce que l'on voit dans l'Ancien Testament, lors du jugement d'Israël qui était incrédule, qu'il y avait un âge de maturité. Et donc je me dis, Dieu a une grâce qui considère la capacité de comprendre, d'entendre et de répondre. Par contre, bien sûr, nous ici, on a entendu et on doit se positionner. Mais un enfant n'est peut-être pas dans cet état. Donc je suis assez confiant. Mais je dois reconnaître que je dérive cette confiance d'un raisonnement à partir de textes bibliques, mais que je n'ai aucun verset de la Bible qui me dise « c'est comme ça ». Donc je serais prudent, mais je n'ai aucun problème de réconforter un parent qui connaît la souffrance la plus terrible hein, de la perte d'un enfant, de cette manière. Oui ? Alors ça, ce sont des questions qui viennent en fonction des pays ou des cultures, où c'est plus prévalent. Mais la Bible dit nettement qu'il n'y a aucune interaction entre le monde des morts et notre monde. Donc lorsque vous allez voir un spirit, n'allez pas voir des spirits, c'est comme le LSD, d'accord ? Mais bon, si vous allez voir un spirit, un vrai, parce qu'il y a 85, je pense, % de charlatans, on les estime un peu à cela, des gens qui sont un peu psychologues, hein, ils vous écoutent et ils vous donnent tout ce que vous pensez. Mais si vous allez voir un vrai médium qui fait venir un esprit, par exemple, je ne crois absolument pas que vous parlez, même si il peut donner des informations précises et exactes. Je crois que ce sont des êtres spirituels maléfiques, mais pas l'esprit du mort. Je crois qu'il y a une grosse bévue, une grosse tromperie, arnaque spirituelle, pas volontaire, mais une grosse tromperie sur... la Bible dit clairement, il n'y a aucune interaction entre les morts et les vivants. Et donc, il n'y a pas à apaiser les esprits, il n'y a pas à gagner leur confiance, comme c'est parfois le cas. Si vous allez dans des restaurants chinois, vous aimez les restaurants chinois ? J'aime beaucoup les restaurants chinois. Pas tous, mais certains. Et que vous trouvez un petit Bouddha, souvent assez jovial, hein, et vous voyez des petites assiettes de riz. Vous avez déjà vu ça ? On va être un peu plus observant la prochaine fois. Ce n'est pas pour vous le riz. Hein. Ne prenez pas avec votre baguette, vous allez offenser le propriétaire. Hein. Mais c'est une offrande qui est faite aux ancêtres, aux esprits décédés. Et l'idée, c'est que si on n'entretient pas des liens honorables avec les ancêtres, ils vont se venger sur nous. Donc c'est une conception assez violente, en fait, de la part des ancêtres et qui se fonde sur cette idée. Au Laos, il y a une famille qui mourait de faim. Et des équipiers que je connais sont allés les voir et ils avaient 50 poules. C'est bon, les poules. Et ils disent, mais pourquoi vous ne mangez pas vos poules ? Ils ont dit, bah non, si jamais on tombe malade. Ils ont dit, attends, quel est le lien entre les poules et la maladie ? Il dit, bah si on tombe malade, il faudra bien sacrifier ces poules pour obtenir l'apaisement des ancêtres. On aura dû les mettre en colère quelque part. D'accord ? Donc ça, c'est ce genre de théorie ou de perspective que l'on a dans certaines cultures. Mais la Bible est très claire. Il n'y a pas à apaiser les ancêtres, ni à craindre leur présence. On peut craindre des manifestations qui sont de cet ordre, mais qui ne sont pas interprétées comme étant la présence des ancêtres. Il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. L'idée du paradis prison. Ouais. Je me dis, si jamais j'étais forcé à entrer dans le paradis, si jamais j'étais forcé d'entrer dans une relation conjugale, si jamais j'étais forcé de rentrer dans une relation amicale avec certaines personnes pour l'éternité, quelque part, comment ça peut être un paradis ? La jouissance provient aussi de l'anticipation et d'un choix que l'on peut avoir fait soi-même. Donc si j'étais forcé de rentrer dans le paradis, ce serait, moi j'imagine, autant les gens qui se disent, ah, c'est dégoûtant que Dieu enlève, juge et exclut de sa personne. J'ai entendu des gens me dire ça. Mais en même temps, quand je leur dis, mais tu peux choisir d'entrer dans sa présence. Ah non, mais ça je ne le veux pas. Bah, si tu ne le veux pas maintenant, si on t'imposait Christ au centre de l'éternité, ce serait terrible. Ce serait d'une violence incroyable. Vous aimeriez adorer Dieu que vous n'aimez pas maintenant ? Non, ce n'est pas possible. Donc ce serait franchement une négation de tout ce que peut être le bonheur de dire oh, « Dieu, je t'aime, tu es mon sauveur, tu as changé ma vie, enfin, je suis tellement reconnaissant d'être là, on va profiter mais longtemps. » Mais ce ne sera plus ça, si je suis obligé. Et si pendant ma vie terrestre, j'ai totalement rejeté, renoncé, écarté cette relation à Dieu. C'est pour ça que j'en parle en ces termes. Je ne sais pas si c'est parlant, mais... Ah oui, oui. Alors, la Bible, la Bible commence par un paradis en deux chapitres et se termine par un paradis en deux chapitres. Et au milieu, on a un drame qui se résout avec Christ. Et c'est vrai que les informations sur le paradis sont peu présentes. Alors, j'imagine, c'est sur une nouvelle terre, donc une terre, je connais, il y a des montagnes, il y a de la rivière, mais au centre, il y a une personne. Et c'est cette personne, si on ne l'aime pas aujourd'hui, on ne l'aimera pas plus tard. Donc c'est ça la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos avant qu'il ne t'ait trouvé, quelque chose comme ça. Et ça, c'est l'espérance de la foi chrétienne. Voilà, alors je suis conscient qu'on arrive peut-être à une heure où on continue ou... Deux questions.
Je reviens sur ce que tu disais avec la séparation de l'esprit du corps et en attente de la résurrection. Le passage dans je ne sais plus quel évangile où Pierre qui voit Jésus discuter avec Élie.
Oui, transfiguration. Mm-hmm.
Donc, s'il la reconnaît, c'est que vous êtes peut-être comme un corps. Enfin,
oui, merci. En fait, la transfiguration, c'est un moment un petit peu unique dans les évangiles. Donc, il faut voir que la vision biblique c'est que, de la personne de Christ, c'est que Dieu existe, il n'y a qu'un seul Dieu, et il est en trois personnes. Et Dieu le Fils, éternellement Fils, ce n'est pas comme si Dieu l'avait engendré, ou l'avait créé plutôt. Dieu le Fils devient homme, c'est-à-dire qu'il devient homme, mais en devenant homme, il enlève ses habits de gloire. C'est-à-dire que si vous l'aviez croisé à Auchan, vous n'auriez absolument pas vu que c'était quelqu'un de particulier. C'était un homme banal, quoi. C'était un homme. Et donc, il a cheminé et il a témoigné de ce qu'il avait vu, de la gloire de Dieu, de ce qu'il en était. Enfin, il a manifesté aussi des actes qui montraient que ce n'était pas le commun des mortels. Puis, à un moment donné, il apparaît dans sa gloire. Et là, il y a... Je crois que c'était pour le bénéfice de trois des apôtres qui ont vu ça, pour qu'ils soient fortifiés dans leur compréhension et leur confiance. Et là, il apparaît dans la gloire, et puis il y a deux personnages de l'Ancien Testament qui lui apparaissent. Alors, c'est un miracle, ce n'est pas quelque chose qui est forcément... Alors, comment est-ce qu'ils l'ont reconnu ? Et pourquoi ils avaient un corps ? Je ne sais pas comment répondre à cette question, parce que la manifestation des êtres spirituels dans... leur interaction avec le monde matériel peut tout à fait relever d'un miracle, et ça me va. Mais peut-être ils se sont présentés. Salut, moi c'est Moïse. Enfin, je ne sais pas. Et donc, ils les ont reconnus comme tels. Peut-être que Dieu a fait en sorte qu'ils puissent paraître avec un corps, même si c'était que pour un temps. Quand j'ai dit que notre âme et notre esprit sortaient du corps, ça ne veut pas dire que cette âme et cet esprit n'a pas de réalité matérielle. Simplement, elle est dans un autre espace, une autre matérialité, qui fait que j'ai pas de souci à lui imaginer une représentation aussi qui a pu être à ce moment-là accessible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Dernière question. Bien. Oui. Ouais. Non, c'est merci. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Vous vous souvenez, j'ai dit qu'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, soudainement, par amour pour les hommes, Dieu devient homme. Un homme qui va vivre la vie parfaite que toi, tu n'es pas arrivé à vivre, moi non plus. Et puis, à un moment donné, Dieu qui est vraiment en colère, Dieu le Père qui est vraiment en colère contre, je me permets, tes fautes, d'accord? Les miennes aussi, hein, pas de favoritisme. D'accord? Dieu est vraiment en colère parce que c'est une violation de sa sainteté, c'est une violation de sa personne. Mais en même temps, il t'aime. C'est vraiment compliqué, ça. Donc d'un côté, il t'aime, il veut t'amener à lui. D'un côté, il est en colère contre ton péché et veut t'éloigner de lui. Parce que lui, il est saint et toi, tu ne l'es pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe à la croix? Ben, à la croix, il y a ces deux extrêmes qui se rejoignent. L'amour et la colère. Comment ça? Ben, quand il meurt à la croix, Dieu le Père, qui était de toute éternité dans une relation aimante avec Dieu le Fils, soudainement change son regard à son égard. Donc, Jésus est sur la croix. Et vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent le récit de la Bible, les ténèbres viennent sur la terre de midi à 15 heures. Donc, la crucifixion dure de 9 heures du matin jusqu'à 15 heures. Et de midi à 15 heures, il y a des ténèbres. Et dans la Bible, quand des ténèbres comme ça arrivent, c'est souvent la marque, pas toujours, mais c'est souvent la marque de la présence de Dieu le Père et de l'alliance, de son intervention pesante qui est représenté par cette obscurité. Donc Dieu le Père arrive presque dans, enfin je l'imagine comme ça, hein, dans un face-à-face avec Dieu le Fils. Et là, pendant ces 3 heures, Dieu le Père prend l'ensemble de tes fautes, okay, l'ensemble des miennes, et il les fourre en Jésus. 2 Corinthiens 5:21 nous dit que Jésus est devenu péché pour nous. C'est-à-dire qu'il devient tout ce qui est sale, toute la violence, tout l'égoïsme, tout l'orgueil, tout l'adultère, toutes les guerres, tout ça, il le devient, lui. Ce que toi tu as fait, ce que moi j'ai fait, ce que nous avons fait. Et Dieu le Père frappe Dieu le Fils. C'est de la colère, n'est-ce pas? Mais normalement, moi j'ai dit que c'était toi qui étais pécheur, qui méritais la colère. Mais en fait, il détourne sa colère de toi pour la placer sur son propre Fils, qui est venu pour ça, il était d'accord, hein. Et lorsque Jésus meurt à la croix, il absorbe la colère du Père, en sorte que maintenant, Dieu est capable de donner et de tendre sa main d'amour à tous ceux et toutes celles qui reconnaissent qu'ils sont brisés, qu'ils ont besoin de grâce, qu'ils ont besoin de pardon. Donc Jésus, il est écrasé à la fois par la crucifixion dans sa violence, et on peut vraiment se représenter, on a trouvé hein, des os crucifiés, enfin, c'était terrible hein, la crucifixion. Violence extrême. Mais en plus de ça, il a été écrasé par la colère du Père. Et il meurt. Son sacrifice est accepté. Sacrifice à notre place. Parce que 3 jours après, il ressuscite. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, tu te souviens, j'ai dit qu'il avait été devenu homme. Il avait laissé sa gloire de côté, comme un vêtement qu'on enlève. Il était devenu homme. Il meurt et il ressuscite dans un corps cette fois-ci glorifié, un peu différent que le sera celui des chrétiens. Mais ce qui me bouleverse et qui me touche, c'est que pendant toute l'éternité, Dieu le Fils sera aussi le Fils de l'homme. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que Dieu n'est pas venu en disant je prends un corps humain comme une chaussette hein, quelque temps, puis ensuite je le laisse. Mais il est devenu homme et il restera pour toujours, pour toute l'éternité, l'homme qui nous a aimés, qui nous a rejoints, qui est mort pour nous et qui nous offre une espérance qui est à saisir individuellement, personnellement. Ce qui s'est passé pour lui, il a connu la séparation, la mort. La mort, dans son essence, c'est la séparation d'avec Dieu. Il a connu cette séparation, mais il a aussi connu cette résurrection et le fait que tout est accompli pour que des hommes aussi mauvais que, excusez-moi, les uns ou les autres, quelques-uns ici peut-être, qui peuvent le reconnaître, qui peuvent dire « mais je crois que tu es mort pour moi », puissent bénéficier de son pardon et de sa grâce. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je suis conscient que c'était lourd comme partie de ces sujets. Moi, je reste là, autant que les amis qui m'ont invité me permettent de rester. Après, ils me videront. Donc, si jamais vous voulez qu'on discute un peu, je suis totalement disposé à cela. Ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil et je vous souhaite une bonne fin de soirée.